Bonsoir. Justice en RDC, 60% des jugements rendus par les tribunaux de Kinshasa ne sont pas exécutés. À la base, l'on déplore notamment le trafic d'influence, certaines interférences politiques, policières et militaires. Comment analyser cette situation? Où en est-on à ce jour avec le processus de la réforme de la justice en RDC? Nous recevons comme invité Maître Kalala Mwenampala, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au ministère de la Justice. Il est ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats et ancien magistrat. Maître Kalala, bonsoir.
Bonsoir.
Magistrat Thomas Otchoudi, juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Il est porte-parole de l'intersyndicale des magistrats du Congo. Magistrat Otchoudi, bonsoir.
Bonsoir.
Il va me rejoindre dans un tout petit moment, c'est Maître Guilhem Aléré, avocat et consultant de droit. Mais vos réactions, nous les avons déjà comme d'habitude. Maître Boileau Kabula Banza de l'Ikasio Katanga, d'une exécution des décisions de justice est due justement au trafic d'influence entretenu par les politiciens qui défient l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi qu'à la corruption. Certains perdants s'arrangent pour corrompre les exécutants des décisions de justice. La vraie réforme de la justice s'impose et elle implique, outre l'amélioration des conditions de vie des magistrats, la restauration de la probité morale dans la profession en infligeant des sanctions exemplaires aux délinquants. Mboya Kabulo Kabulo, c'est déplorable si notre appareil judiciaire est un instrument au service du pouvoir actuel, alors que la justice est impartiale par nature. Et si un magistrat qui est censé dire le droit se fait corrompre, alors pour nous les autres, qu'allons-nous faire? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
60% des jugements rendus par les tribunaux de Kinshasa ne sont pas exécutés. À la base, l'on déplore notamment le trafic d'influence, certaines interférences politiques, policières et militaires. À cet effet, le greffe chargé d'exécuter les jugements des justiciables et leurs avocats ainsi que le procureur général de la République sont convaincus que l'inexécution des jugements est due à la mentalité du Congolais. Personne n'accepte le verdict du juge, sauf celui qui a gagné, affirme le procureur général de la République. C'est une enquête menée par Jeff Ngoy.
Un jugement gagné par un pharmacien dans le procès sur la zaïrianisation reste toujours inexécuté depuis les années 80. Selon l'avocat du pharmacien, l'État avait été condamné à payer à titre de dommages et intérêts 83 millions de dollars. Dans le procès Jean Bamanissa contre Utex Africa, les enfants Bamanissa ont gagné un jugement, mais la famille n'a toujours pas été réhabilitée pour occuper le site querellé dans la commune de Ngaliema le long du fleuve. L'ancien député national s'en plaint.
Lorsqu'un greffier est incapable d'exécuter un jugement comme le nôtre, qu'il fait un rapport, mais que le ministre sortant ne veut pas.
Le greffier d'exécution du tribunal de grande instance de la Gombe, Teddy Lutonadio, avoue que le greffe subit des pressions de ses supérieurs hiérarchiques. Ses prédécesseurs ont même été suspendus parce qu'ils ont outrepassé de telles influences pour exécuter certains jugements.
Je parle du ministère. On vous demande de ne pas exécuter. Peut-être avec le ministre qui vient d'arriver, il va laisser la justice faire son travail comme il faut.
Pour le procureur général de la République, on accuse souvent à tort le parquet d'une exécution d'un jugement, alors que cela n'est pas de sa compétence. Si l'on pouvait laisser la justice travailler librement, on ne serait pas là en train de déplorer l'inexécution de certains jugements, déclare Sorika Bangenumbi.
C'est celui qui a gagné qui doit faire exécuter sa décision. Le parquet n'intervient que lorsque le greffier chargé d'exécuter cette décision a rencontré une résistance.
Les considérations subjectives liées à la concussion, à la corruption et à la position sociopolitique constituent des maux qui rongent la justice congolaise. Mais la force reste à la loi.
Merci Jeff Ngoy. Au Kasaï occidental, l'Observatoire congolais des droits de l'homme condamne la non-exécution de 18 verdicts rendus à Ilebo contre les auteurs de viols par le tribunal de grande instance de Luebo. Le responsable de cette ONG considère que cette situation favorise l'impunité. Le chef du parquet secondaire d'Ilebo affirme, lui, que les procédures judiciaires se font dans la discrétion. André Kambala.
D'après le coordonnateur provincial de l'OCDH, depuis la clôture de la chambre foraine en fin mars, 18 personnes condamnées de viol sont toujours en liberté. Hubert Ngulandioko désapprouve ce silence du parquet secondaire d'Ilebo, qui constitue selon lui une prime d'encouragement de bourreau. Ainsi, il pense saisir le procureur général près la cour d'appel de Kananga pour l'exécution de ses verdicts. Ce qui, au finish, sera selon lui une façon de combattre l'impunité au Kasaï occidental. Pour le chef du parquet secondaire d'Ilebo, 80% des dossiers traités par la chambre foraine n'ont pas rencontré d'obstacles. Ils ont porté sur des auteurs de viol déjà en détention préventive. Floribert Nkele ajoute qu'à ce jour, il s'apprête à lancer le mandat de prise de corps contre 20% des condamnés qui sont en liberté provisoire. Toutefois, il dit se heurter à l'indiscrétion des défenseurs judiciaires qui alertent facilement les concernés pour s'éclipser. D'où sollicite-t-il le concours de tous pour se saisir de ces condamnés. De Kananga, André Kambala Mujanaï, Radio Okapi.
Merci André Kambala. Magistrat Thomas Ochoudi, je rappelle que vous êtes juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, également porte-parole de l'intersyndicale des magistrats du Congo. Comment vous expliquez l'inexécution des jugements rendus?
Merci pour la parole. Je dois d'abord rectifier une chose, c'est que les statistiques données ne me convainquent pas du tout. En l'absence des données fiables régulièrement publiées par les services compétents.
Sont exagérées ou ont été minimisées?
Peut-être exagérées, mais je veux bien dire que, en l'absence de données fiables, je ne peux pas attester que c'est exagéré ou moins exagéré.
Alors que disent les données que vous avez?
Alors, de toutes les façons, Monsieur Alain, il faut d'abord rappeler une chose, que l'exécution d'un jugement, ou de manière plus générale, l'exécution des décisions de justice procède d'un impératif constitutionnel posé par l'article 149 de la Constitution qui stipule en son article 149, bien entendu, qui stipule en son alinéa 3 que la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple et en son alinéa 4 que le jugement, les arrêts et les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Je dois affirmer que l'exécution volontaire de décisions judiciaires ne pose pas problème, et même l'exécution en matière répressive, car celle-ci relève du ministère public. Mais plus souvent, il faut l'avouer, les difficultés d'exécution sont élevées en matière civile et commerciale, et surtout quand il s'agit d'une exécution forcée, allais-je dire. Imaginez, Alain, qu'un créancier, par exemple, n'aurait aucun intérêt à obtenir un jugement à l'encontre de son débiteur s'il ne peut exécuter les condamnations y contenues et contraindre éventuellement les débiteurs. C'est pour donner beaucoup plus de force à un titre exécutoire qu'on a institué l'exécution forcée des décisions. Cependant, je conviens avec les observations de tout à l'heure que si le but de voie d'exécution est d'assurer satisfaction à la partie qui a gagné un procès, il y a quand même deux problèmes qui se posent, parce que toute exécution a des implications. Il y a, par exemple, l'impératif de protection de la partie succombante, et comme vous le savez, les dégraissements, par exemple, d'un citoyen est une mesure grave dont les conséquences peuvent être dramatiques. Imaginez aussi la saisie des comptes d'une entreprise publique qui présente une dimension humaine et sociale beaucoup plus préoccupante, parce qu'en saisissant les comptes en exécution d'une décision, on peut bien priver des concitoyens de leur salaire dans des circonstances déterminées. Mais il faut dire que l'exécution en soi relève du greffe, et il y a autant de problèmes qui se posent quant à l'exécution. Donc, le blocage dans l'exécution ne procède pas nécessairement des interférences, parce que la loi elle-même a institué quelques mécanismes, mais à tort, Parfois, l'opinion pense qu'il y a des interférences. Il peut arriver que le titre exécutoire lui-même, qui donne droit à l'exécution d'une décision, pose problème au plan de la forme et de fond. Là, la loi reconnaît à la personne qui s'estime lésée d'actionner des mécanismes légaux pour saisir le juge du lieu d'exécution en vue de vider, par exemple, ses difficultés élevées. Parce que on ne peut exécuter que sur base d'un titre exécutoire qui est un acte délivré au nom de l'État et par lequel celui-ci accorde à son titulaire le pouvoir de procéder à l'exécution forcée. Mais imaginez que ce titre lui-même pose problème.
Voilà, vous intervenez, magistrat Otchoudi, pour quelques précisions après cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous.
Maître Urbain Kokololandi, à Bounia, plusieurs facteurs peuvent être à la base de l'inexécution d'un jugement. Et ces facteurs vont de la mauvaise foi du juge qui peut bloquer l'exécution au cas où il est corrompu, jusqu'au désintéressement de la partie gagnante en passant par l'ignorance de la procédure d'exécution d'un jugement. En plus, l'exécution d'un jugement est une matière sensible et complexe dont notre loi confie encore une grande part de responsabilité au greffier. Tandis que, sous d'autres pieds, au vu de la pertinence de la question, elle est confié à un juge d'exécution des jugements, tel est le cas de la France, par exemple.
Réaction, magistrat, je te dis.
Je dois réagir tout de suite pour dire que je ne suis pas d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure quand il dit que l'exécution peut être bloquée parfois du fait d'un magistrat ou d'un juge qui est corrompu. Les juges n'exécutent pas les décisions, ils rendent des décisions. Et que quand une décision rendue par un juge a acquis autorité de la chose jugée ou que toutes les voies de recours sont épuisées, c'est le greffe qui s'en occupe. Alors, relativement à ce qui est institué en France, c'est vrai, peut-être qu'en France, quand il y a des difficultés élevées à l'occasion d'une exécution, ces juges qui s'en occupent, on l'appelle juge de l'exécution. Mais chez nous, les tribunaux de grande instance a compétence pour connaître des difficultés élevées suivant l'article 137 du Code de l'organisation de la compétence judiciaire.
Mais tout à l'heure, vous avez suivi dans le reportage de Jeff Ngoy, le greffier qui dénonçait des interférences du ministre de la Justice, il a dit clairement.
Non mais écoutez, il est dit, peut-être c'est son droit, mais j'ai aussi dit tantôt que tous les blocages ne sont pas dus du fait des autorités politiques, j'ai dit aussi que l'exécution des décisions comporte des dimensions, même sociales, même économiques. Alors quoi de plus normal quand il y a une exécution effectuée et qu'il y a des implications sur la vie de nos compatriotes que les autorités politiques, par exemple, puissent chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé là? Surtout ce qu'il n'a pas dit, que quand on veut exécuter, il faut au préalable un commandement. Mais à ce niveau, des problèmes se posent au niveau du greffe. Combien de fois n'a-t-on pas vu des greffiers descendre sur terrain pour exécuter? Et quand on procède à des vérifications, vous constatez que le commandement n'a pas été lancé dans des normes requises, que ce commandement n'a pas été répété, mais que tout de suite, on veut bien l'expulser.
Voilà, donc je signale en même temps à nos invités qui sont tous juristes et pour qu'ils utilisent des termes simples pour que les auditeurs qui nous suivent puissent mieux appréhender leurs pensées. Maître Kalala Mouenampala, vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au ministère de la Justice, ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats et ancien magistrat, Maître Kalala, quel est votre point de vue? Y a-t-il beaucoup de jugements non exécutés? Si oui, à quel niveau? Sinon, qu'est-ce qui se passe?
Oui, merci beaucoup. Là, je vais parler en tant que chargé de la réforme. Et plus en tant que chargé de la réforme par rapport aux réalités que nous vivons et qui sont des réalités tout à fait malheureuses dans le domaine de la justice. Évidemment, lorsqu'une décision est rendue, c'est que la décision a été rendue au nom du peuple et qu'elle doit être exécutée au nom du président de la République. Mais est-ce que le juge qui a rendu la décision, qui devait être indépendant, c'est-à-dire des parties, de toutes les personnes qui peuvent amener une interférence dans le délibéré, si je peux ainsi dire, dans le comportement du magistrat. Est-ce que le magistrat est indépendant et qu'il est resté sous l'autorité uniquement de la loi lorsqu'il a rendu la décision? Voilà la question qu'il faut se poser. Et parce que le magistrat est sous l'autorité uniquement de la loi, il ne doit dire que la loi. De sa bouche et de sa main ne doit sortir que la volonté du peuple qui est exprimée dans la loi. Mais est-ce que le juge le fait? Et s'il ne l'a pas fait, est-ce que cette décision-là peut être exécutée au nom du chef de l'État qui est le garant de la légalité? Voilà des questions qu'on doit se poser. Lorsque le juge rend la décision sous l'effet de la corruption, il va transvertir plutôt la pensée du législateur. Il va substituer cette pensée à ses intérêts à lui et ou à ses amis. Cette décision-là n'est plus une décision de justice telle que le veut le peuple à travers la loi. Ça devient une décision de justice tout à fait subjective. Et à ce moment-là, le chef de l'État est embrigadé dans ce genre de choses par tout simplement l'apposition du nom du chef de l'État sur un tel jugement. Et parfois, ce sont des jugements que nous appelons ou même ailleurs, qu'on appelle l'escroquerie au jugement. Donc, ils viennent seulement couvrir des magouilles, qui viennent tout simplement maquiller les faux droits. Et à ce moment-là, on fait porter toute cette responsabilité au chef de l'État, qui est le garant de la légalité, celui qui, au nom de qui, on exécute les décisions qui sont censées être des décisions conformes à la loi. Lorsqu'elle n'est pas conforme à la loi, et là, je pense que l'article 18 de la Constitution veut que toute personne qui reçoit un ordre manifestement illégal, et ici, l'ordre qui est donné porte justement sur l'escroquerie.
Alors, Maître Kalala...
Et on ne peut pas... moi, je pense qu'à ce niveau-là, l'intervention du pouvoir, même judiciaire, à travers l'inspecteur général, devra faire que pareille décision inique ne soit pas exécutée. Et cela est tout à fait régulier.
Alors, Maître Kalala, il y a souvent, on a entendu, hein, dans plusieurs cas, l'État condamne l'État congolais au paiement, par exemple, $1 million, de $500 000, ainsi de suite, et plusieurs fois, et on se demande comment l'État pourrait s'en sortir.
Mais justement, c'est ce que on doit déplorer, parce que là, on sent très bien que celui qui alloue $1 million contre l'État, peut-être pour des lésions corporelles involontaires, $1 million, pour peut-être un litige de travail, $1 million. Ça a déjà eu lieu à Matadi, où on a condamné une société à $1 million pour résiliation abusive. Alors vous comprenez là le drame que va causer l'exécution d'une telle décision. Est-ce qu'on doit laisser? Parce que c'est toujours au nom du chef de l'État. Son nom est mis à l'avant-plan pour l'exécution. Est-ce qu'on va laisser le juge, la volonté du juge et non pas celle du législateur? Est-ce qu'on va laisser cela s'exécuter? C'est un problème. Et moi, je pense que là, l'inspectorat, qui a reçu mission de veiller à ce que les décisions soient conformes à la loi. Il doit intervenir pour empêcher l'exécution de ce genre de jugement.
Donc c'est un jugement fantaisiste.
Fantaisiste parce qu'il y a des circulaires du président du conseil judiciaire qui sont encore en application. Et j'irai même plus loin, il y a la circulaire de Kengo dans le temps, qui interdisait qu'on puisse dépasser un certain seuil. Évidemment, actuellement, on dira qu'il y a un problème d'indépendance. Mais là, je dis que c'est un problème de discipliner les juges qui croyaient tout se permettre, alors qu'ici, ils sont sous l'autorité de la loi et ils doivent avoir la mesure dans leur comportement. Et souvent, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est l'extravagance.
Mais le juge Otudi, tout à l'heure, a souligné les dimensions socio-économiques dans l'exécution d'un jugement.
Mais oui, justement, qu'est-ce qu'on va exécuter? lorsqu'il s'agit d'une escroquerie au jugement, c'est-à-dire l'avocat, il y en a certains qui viennent avec des tromperies, qui trompent le juge que j'ai droit à tel, mon client a droit à telle chose, alors qu'en réalité, ce droit-là n'existe pas. Et le juge, le sachant, va tout simplement maquiller ce faux droit et le couler sous forme de jugement, et on va opposer ce jugement au nom du chef de l'État à une victime de ce genre d'arrangements qui se font généralement entre partis, certains avocats, certains magistrats, pour dépouiller les autres citoyens.
Donc, alors, je me pose... juge complice en ce moment.
Complice, généralement. Généralement, il y a peu de cas où nous sommes dans un cas où le juge dit « fait parler la loi » et rend les décisions avec mesure. Souvent, c'est un dépassement. Et généralement, on va essayer de recueillir, au-delà de la décision, le produit de la condamnation qui a eu lieu. Voilà pourquoi il faut réformer les mentalités des juges, les mentalités des avocats, pour que notre justice retrouve ses lettres de noblesse.
Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission. Maître Guilhem Aléré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et consultant de droit, vous le savez, cette émission est également pédagogique. Maître Maléré, à quel moment peut-on dire qu'un jugement n'est pas exécuté?
Oui, merci beaucoup pour la question et ça me permet d'aborder le sujet dans un angle qui n'a pas été suffisamment exploité jusqu'ici. C'est justement une des préoccupations majeures au niveau de la société civile. Je me place ici dans l'hypothèse où on a un jugement qui a été rendu dans des conditions normales, un jugement qui est équitable et qui est bon. On constate que même pour ce genre de jugement, eh bien, les bénéficiaires de la décision ont du mal à rentrer dans ses droits. Il peut avoir, par exemple, obtenu des dommages-intérêts, même dans un procès contre l'État et de manière tout à fait juste. Par exemple, les victimes des violences sexuelles, pour ne prendre que cet exemple. Lorsque le procès est bien mené, bon, il arrive que le juge, au-delà, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, eh bien, prononce des peines civiles, des réparations, qu'il met parfois à charge de l'État. Qu'est-ce qu'on constate? Après avoir obtenu cette décision, la victime de violences sexuelles, par exemple, ne parvient pas à rentrer dans ses droits tels que consacrés par une décision qui est définitive. Donc, toutes les voies de recours ont été épuisées. Mais pour rentrer maintenant dans ses droits, il y a énormément d'obstacles qui se posent pour que la décision soit exécutée, c'est-à-dire pour que la réparation pécuniaire qui a été décidée en faveur de la victime lui soit effectivement remise. Et cela est valable aussi dans d'autres genres de procédures. Alors, quels sont ces obstacles généralement? On a constaté que, de manière tout à fait objective, il y a des obstacles, par exemple, liés aux frais judiciaires. La personne peut avoir son jugement, en bonne et due forme, exécutoire, coulé en force des choses jugées, mais ne pas parvenir à aller jusqu'au bout du processus d'exécution, parce que tout simplement, la personne est indigente, elle n'a pas assez d'argent. Vous voyez, il y a des petites formalités, par exemple, comme la dactylographie du jugement. Eh bien, c'est payant. Au niveau du greffe, on va vous demander un certain montant. Il y a ce qu'on appelle les droits proportionnels. Pour ceux qui n'ont pas l'information pour aller obtenir des attestations d'indigence et consorts, eh bien, tous ces frais-là font que finalement, la personne se retrouve devant comme une sorte de parcours du combattant et renonce à aller jusqu'au bout de la recherche de l'exécution de la décision judiciaire qui lui est favorable. Il y a d'autres circonstances aussi que l'on dénonce parfois au niveau des forums de la société civile. C'est le fait que la personne peut aller jusqu'au bout, faire toutes les formalités requises, mais arriver par exemple en ce qui concerne, je reviens aux victimes des violences sexuelles qui me sont un peu chères ici, eh bien, arriver devant le ministre de la Justice qui doit engager la dépense en réparation au nom de l'État, eh bien, elle vous dit que la ligne budgétaire qui est attribuée au ministère de la Justice est tellement infime que après avoir, n'est-ce pas, engagé les réparations pour une ou deux victimes, eh bien, il n'y a plus rien au budget du ministère de la Justice. Donc, le ministère de la Justice n'a pas les moyens qui lui permettent de répondre, en tout cas en ce qui concerne les décisions qui ont été prises dans des conditions normales, n'a pas les moyens budgétaires de pouvoir répondre à la créance des réparations qui pèsent sur l'État, par exemple. Ça, ce sont des obstacles tout à fait objectifs, au-delà de tout ce qui a été dit ici. Et je voudrais aussi ajouter ici que, finalement, la question de l'exécution des décisions judiciaires, c'est-à-dire quelqu'un qui va en justice, s'attend à ce que justice soit faite, si vous permettez la redondance, et que éventuellement il puisse être dédommagé du préjudice qu'il a subi dans cette instance, hein, par rapport à cette instance. Eh bien, lorsque cela arrive, la personne, pour avoir entière satisfaction, pour dire que réellement justice m'a été rendue, eh bien, aspire à ce que, s'il y a eu des dédommagements qui ont été prononcés en sa faveur, eh bien, que ces sommes-là lui soient effectivement payées. Et lorsque cela n'est pas fait, le justiciable en sort frustré avec le sentiment que la justice n'a pas été rendue, en tout cas jusqu'au bout. Donc, voilà pourquoi c'est finalement toute une problématique. Et là-dedans, il y a aussi la question de l'indépendance de la justice, et pas seulement des magistrats, parce que la justice, en tant que pouvoir, lorsqu'elle a rendu une décision, eh bien, cette décision devrait pouvoir aller jusqu'à son exécution. Et donc, c'est tous ces facteurs-là, outre ceux qui ont été soulevés ici, qui font que finalement, on a des belles décisions par moment, mais on ne sait pas les exécuter à cause des différents facteurs qui ne sont pas nécessairement de la magouille et autres, comme on a dit ici, mais qui sont des obstacles liés à la pauvreté des justiciables, liés aux frais judiciaires qui paraissent élevés pour certains justiciables, etc. etc. Donc c'était pour compléter ce qui a été dit.
Voilà, alors, mais Maître Maléré, y a-t-il des cas où on a le trafic d'influence, des interférences politiques, militaires, une décision est exécutée, déguerpissez telle personne, mais après c'est un officier militaire qui envoie d'autres policiers, cela existe?
Absolument, c'était même devenu un fléau, notamment les interférences des acteurs politiques qui intervenaient par des lettres de surséance. Eh bien, c'était devenu déjà un fléau au point qu'il y a eu même des circulaires du premier président de la Cour suprême de la justice indiquant que la Constitution exige qu'une fois les décisions judiciaires coulées en force des choses jugées, c'est-à-dire devenues définitives, eh bien, elles doivent être exécutées et personne n'a le droit d'entraver l'exécution d'une décision. Il y a eu des circulaires dans ce sens. Pour rappeler cela, ça veut dire que la pratique a été constatée. Effectivement, il y a eu des lettres d'autorité politique administrative adressée, n'est-ce pas, au greffier pour lui dire de ne pas exécuter telle ou telle décision selon que l'autorité politique estime que cette décision, n'est-ce pas, est inique ou je ne sais pas comment, mais en réalité, l'indépendance de la justice veut qu'en tant que pouvoir, lorsque la justice a pris une décision et que les voies de recours ont été exercées, et sans pouvoir la renverser, eh bien, celle-ci doit être exécutée. C'est ce que dit notre Constitution. Et malheureusement, effectivement, ces genres d'interférences, on les a constatés par le passé et on a continué à les constater peut-être beaucoup moins, mais ça existe et ça vient soit d'un ministre de la justice, soit... Ça existe, ce sont des réalités dans notre pays, on ne peut pas les nier.
Magistrat Thomas Otchoudi, vous avez suivi Maître Maléré et Maître Kalala. Maître Kalala a parlé de l'escroquerie judiciaire où les juges se lancent dans des jugements fantaisistes. Comment vous y répondez?
Écoutez, je l'ai suivi attentivement, mais j'aimerais d'abord rejoindre ce que Maître Guilin a dit, c'est que dans le cas de cette émission, nous devons nous placer dans une situation d'un jugement qui a été rendu et que la personne qui veut l'exécuter prétend avoir un jugement qui a épuisé toutes les voies de recours et qui est coulé en force des choses jugées. Mais qu'au-delà de cela, Maître Kalala a présenté un tableau quelque peu sombre, mais à ce sujet, il faut bien dire que quand il y a une partie succombante à la suite d'une instance, la partie succombante ne peut pas tout de suite jeter des fleurs à ses juges. Alors, de ce point de vue, il y a deux voies de recours qui sont instituées. Combien de fois n'a-t-on pas vu de décisions rendues au premier degré et réformées au degré d'appel? Combien de fois n'a-t-on pas vu des décisions rendues au premier degré, confirmées au degré d'appel, mais au niveau de la cassation, prémise en question? Alors, l'effet le plus important que Maître Kalala a souligné, c'est démontrer que ces interférences ne sont pas toujours l'effet de caprice des autorités. J'ai dit tantôt qu'il y a des dimensions sociales, il y a même une dimension humaine. Il faut que l'exécution soit humaine, surtout quand il s'agit d'une expulsion. Sous d'autres cieux, en France par exemple, mais chez nous c'est de facto, en France, Il y a même des actes réglementaires qui instituent une trêve hivernale, qu'en ayant une période qui va, si je ne m'abuse, du 1er décembre au 1er mars, on ne peut pas exécuter pour des raisons humanitaires. Chez nous, ça s'est fait de facto. Imaginez qu'un ministre demande qu'on n'exécute pas une décision pendant les périodes des fêtes, c'est que cette intervention du ministre ne relève pas de ses caprices. Mais par rapport à ce que Maître Guilin a dit, il y a deux mécanismes qui sont institués pour contourner ces obstacles. Quand la personne qui veut exécuter une décision est indigente, elle peut bien obtenir une attestation d'indigence pour avoir par la suite une ordonnance qui les dispense de certains frais. Mais du côté policière, parce qu'à l'annonce de l'émission, on a fait état aussi des interventions des autorités policières. De ce point de vue, je n'imagine pas que ces autorités interviennent d'eux-mêmes. Mais c'est très souvent quand, dans un processus d'exécution, il y a une résistance et qu'un rapport de résistance est fait, qu'on peut requérir la force publique.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent « Moulumba Ntumba, pour ma part, les jugements en RDC ne sont pas exécutés. C'est parce que les juges qui rendent ces jugements attendent de l'argent auprès des justiciables. C'est pourquoi ils prolongent la date des verdicts. Mais si nous nous mettons au prescrit de la loi, il est dit que le juge doit prononcer son jugement après la plaidoirie dans les 8 jours francs. Mais ces derniers temps, ils ne les font pas en attendant l'argent de l'une ou de l'autre partie. » Maître Déo Biaruhanga de Bouya en province orientale. Le trafic d'influence est devenu monnaie courante dans la procédure judiciaire en RDC. Les auteurs de ce trafic sont surtout les hommes qui ont un mot à dire dans ce pays et qui se croient être des intouchables. Voilà ce qui fait que la justice congolaise a perdu son indépendance et sa crédibilité. Et la tolérance zéro n'a plus sa connotation. Bref, réaction, juge Otchoudi, avant que je ne donne la parole
à Maître Kalala. La première réaction, c'est que les auditeurs insiste sur les faits que les jugements sont rendus et que ceux-là qui les rendent posent problème. Mais il faut rappeler aux auditeurs qu'ils se posent plus si c'est un problème d'exécution. L'exécution n'est pas de la compétence du juge. Mais les problèmes qui se posent, c'est par rapport au greffier chargé de l'exécution. Je vais rappeler sur ce point une circonstance importante. Je dis tantôt que quand on veut exécuter un jugement, il y a tout un processus. Il faut porter l'information à la connaissance de la personne contre laquelle on exécute. Or, il s'est fait que les actes d'exécution, qui sont des actes réceptifs, comme on les appelle ailleurs, n'ont d'existence juridique que quand ils sont notifiés et signifiés et posés dans la régularité. La population comprendra qu'il peut arriver à un moment qu'en signifiant même un commandement, que les huissiers se soient arrangés pour ne pas atteindre la personne. Quoi de plus normal que ce paisible citoyen qui n'a été nullement pas informé, qui n'a reçu aucun commandement, soit surpris de voir qu'on vient le déguerpir, par exemple.
Maître Kalala, vous intervenez après cette autre réaction qui nous vient de Bouya une fois de plus en province orientale.
Maître Chabani de Bouya, province orientale, il est déplorable de constater que les autorités qui prônent la tolérance zéro en justice sont les premières à y avoir même mis dès l'inféodé. Lorsqu'une cause est coulée en force de choses jugées, son exécution est évidente, sauf en cas du principe nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Il faudra donc attendre que la personne soit meilleure fortune pour exécuter les jugements.
Maître Kalala.
Oui, je comprends, là, il parle de la tolérance zéro, et sur ce point, je pense que c'est toute une philosophie d'un pays par rapport aux maux qu'on a dû détecter au niveau de la justice, par rapport justement à ce genre de choses d'interférence, d'impunité, et la tolérance zéro veut que lorsqu'une décision judiciaire juste et non inique intervient, on l'exécute lorsqu'on a respecté la volonté du législateur par le juge. Je vous ai dit tout à l'heure là que généralement, comme tout à l'heure là on vient de vous dire que les décisions ne sont pas rendues dans le délai légal. 9/10 des décisions judiciaires en RDC ne sont jamais rendues dans le délai légal. Pour quelles raisons? Ça, c'est la population qui sait pourquoi ce genre de choses se font. Mais alors, la tolérance zéro, justement, va contre ce genre de comportement de magistrat. Et le jugement dont on parle, qu'il a été coulé en force de choses jugées. Jugé comment? Alors, conformément à la loi.
Mais Maître Kalala, qui peut constater que le jugement est inique?
Mais qui peut constater? Mais l'inspectorat, son travail, c'est quoi? Prenez l'arrêté 299 de 79, je n'ai pas d'autres détails, du 20 août 79. L'inspectorat qu'on a institué, les décisions judiciaires, évidemment, celles qui sont civiles, hein, pas les décisions pénales, parce que ça, c'est l'affaire du ministère public. Les décisions civiles, c'est-à-dire commerciales, en matière commerciale, civile et fiscale, ainsi de suite. Ces décisions-là, lorsqu'elles sont rendues, qu'elles sont iniques, et que le juge a fait de la magouille, je le dis de façon tout à fait naturelle, je ne porte pas des gants. S'il y a eu de la magouille, on sait découvrir par l'inspectorat pour refuser ou autoriser l'exécution. C'est ça la mission de l'inspectorat.
Alors, Maître Kalala, vous êtes également chargé de la réforme de la justice, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au ministère portant le même nom. À ce jour, où en est-on avec le processus de la réforme de ce secteur?
La réforme, je crois que dans le cadre de ma cellule, nous sommes en train de surveiller, si je peux ainsi dire, le comportement des acteurs de la justice, les huissiers, ce qu'ils font d'irrégulier pour pouvoir arriver à surprendre les gens. Je vous donne un exemple. Étant à son domicile et ne l'ayant pas trouvé, ça c'est lorsque la procédure est enclenchée. Mais lorsque le jugement intervient, la personne, on la trouve chez elle pour être déguerpie, alors qu'elle a des droits. Mais lorsqu'elle devait se défendre, il n'y a pas de droits. Certains avocats convoient des faux droits, des fausses qualités en justice devant les juges. Et là, les juges ne font que entériner et les fausses qualités sont logées dans un jugement qui est pourtant censé ne contenir que la vérité. Et à ce moment-là, de tels jugements, lorsqu'ils sont rendus, ils vont être exécutés au nom du chef de l'État, et ça, ce sont des mots. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut surveiller le comportement des magistrats, surveiller le comportement des avocats, et proposer que des sanctions que je peux considérer exemplaires soient prises, et contre les avocats, et contre les magistrats. À ce moment-là, la tolérance zéro aura fait son travail. Je sais que c'est gênant pour ceux qui exercent la profession comme la mienne ou celle des magistrats. Nous ne devons pas être complaisants lorsque l'on veut que notre pays aille de l'avant et qu'il soit crédible. Il faudrait que ce genre de comportement soit combattu au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et au niveau du Conseil de l'Ordre. Merci. À ce moment-là, ça pourra marcher.
Alors, Maître Guilhem Aléré, qu'est-ce qu'il faut pour que finalement les décisions soient exécutées?
Oui, vous l'avez introduit tout à l'heure en posant la question à Maître Kalala. Mon aîné, Maître Kalala, sur la réforme de la justice. En fait, une grande partie des solutions viendront justement de la réforme de notre système judiciaire. Et cette réforme, en plus de ce qui vient d'être dit tout à l'heure, qui a été présenté comme un monitoring du fonctionnement de la justice, j'aimerais ici dire à mon aîné, Maître Kalala, que la question de la réforme du secteur de la justice a déjà été sérieusement envisagée au niveau du gouvernement. En tout cas, je me souviens personnellement quand j'ai été au ministère de la Justice au niveau du cabinet du ministre Minsa Iboka, eh bien le gouvernement, avec l'aide du PNUD, a élaboré un plan d'action du ministère du secteur de la justice. Eh bien, ce plan d'action, malheureusement, j'ai constaté qu'après avoir été adopté par le gouvernement, n'a pas été mise en œuvre par différentes autorités qui sont venues animer le ministère. Alors, c'est ici l'occasion de formuler le vœu de voir Son Excellence Madame la Ministre, qui a été récemment nommée, faire sien ce plan qui a été adopté en 2007 et mettre en œuvre tous ces volets. Et très rapidement, ce plan prévoit que des réformes de fond doivent être entreprises sur le plan des ressources humaines et de la formation. Vous savez, on a beaucoup parlé ici des magistrats, du personnel judiciaire, les greffiers, etc. Eh bien, il est prévu dans ce plan comment redynamiser, n'est-ce pas, l'homme, réhabiliter l'homme sur le plan de la formation, sur le plan des ressources humaines, comment recruter des nouvelles personnes et de nouveaux cadres bien formés. Il est même prévu que les magistrats soient recyclés ou bien qu'ils passent à travers une école de la magistrature pour le renforcement des capacités, etc. Eh bien, il y a aussi un volet dans ce plan d'action sur les infrastructures et les équipements. Vous savez dans quelles conditions travaillent les acteurs judiciaires dans notre pays, et tout ça concourt justement au dysfonctionnement général qui est constaté au niveau de la justice. Eh bien, les détails sont donnés dans ce plan d'action qui existe. Il y a aussi tout ce qui concerne l'information et la documentation. Il y a des acteurs judiciaires qui agissent mal parce que finalement ils ont un déficit d'information, pour ne pas dire un déficit de formation. Eh bien, dans ce plan, des choses intéressantes sont dites à court, moyen et long terme sur ce qu'il faut faire pour former. Et je termine pour dire que il est aussi prévu des stratégies de croissance des ressources, des ressources financières du secteur de la justice pour permettre à notre justice de mobiliser les recettes et en fin de compte d'avoir la rétrocession qui lui permettra de fonctionner et de financer un certain nombre de ses activités et d'infrastructures. Notamment, la justice de proximité doit être mise en place, les tribunaux de paix doivent être essaimés sur toute la République, etc., etc. Donc la réforme, c'est une tâche ardue, et donc je suis content que, je m'excuse, Maître Kalala ait été placé en charge de cette cellule. Moi, j'aurais même souhaité que ce soit plutôt carrément qu'il soit fait conseiller, parce que la tâche est ardue et qu'il puisse la mener selon le plan d'action qui a déjà été adopté avec l'aide des partenaires extérieurs qui siège dans le comité mixte des réformes du secteur de la justice au ministère de la justice, mais dont le produit de la réflexion, malheureusement, n'est pas appliqué, alors qu'ils sont prêts, ces bailleurs de fonds, à nous accompagner dans cette tâche de réforme.
Voilà, je voudrais juste signaler qu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Le temps ne nous attend pas. Maître Maléré, en guise de conclusion, la société civile n'a-t-elle pas son rôle en ce qu'elle devrait travailler pour que les citoyens puissent connaître ses droits?
Absolument, absolument. Elle s'y attelle avec les moyens de bord. Il y a énormément d'ateliers qui sont tenus au niveau de la société civile pour dénoncer le dysfonctionnement de notre système judiciaire et proposer des solutions. Parce que ce qui est important, c'est de se tourner vers l'avenir et non pas d'avoir les yeux rivés sur ce qui est en train de se passer. Donc, la société civile fait énormément, mais ce travail-là doit être fait en synergie avec les acteurs publics. Donc, c'est tout le monde qui doit s'impliquer. La société civile essaie de faire sa part, mais il faut maintenant que du côté des acteurs politiques notamment, on puisse, n'est-ce pas, aider la société civile à concrétiser tous les vœux qu'elle exprime au jour le jour.
Merci Maître Guilhem Aléré. Magistrat Thomas Ochoudi, en ce qui vous concerne par rapport à la réforme du secteur de la justice, qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau en guise de conclusion?
Oui, en guise de conclusion sur la réforme, je dois dire que la constitution en vigueur dans notre pays a institué un dispositif se rapportant à la réforme du secteur judiciaire. Et c'est de ce point de vue que vous constatez que la législature précédente a déployé une impressionnante activité législative pour doter le pays de certains textes. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre aux auditeurs que face au comportement des magistrats, il y a un conseil supérieur de la magistrature qui a été institué, et ce conseil fonctionne à travers ses chambres provinciales pour essayer de réprimer tout comportement de magistrat qui rentre dans le champ disciplinaire.
Maître Kalala Mwenampala, un mot de conclusion.
Je conclue en disant que il faut qu'il y ait des actes concrets de réforme de la mentalité des greffiers, des avocats, des magistrats. Il faut que des actes de discipline, que le magistrat, l'avocat, soient suivis dans son comportement et que les sanctions soient effectivement prises à l'encontre de ceux qui bloquent le bon fonctionnement de la justice, quel que soit leur niveau de responsabilité.
Merci à Maître Kalala Mwenampala, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme au ministère de la Justice, ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats et ancien magistrat. Merci au magistrat Thomas Ochoudi, juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, porte-parole de l'intersyndicale des magistrats du Congo. Et merci à Maître Guy Maguilin Maléré, avocat et consultant de droit. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Au revoir.